Il ne suffit pas de choisir des aliments locaux, de saison et bio pour manger sain. Il faut aussi savoir les cuisiner sans les dénaturer, en prendre soin pour préserver leur qualité nutritionnelle et leur saveur. C'est ce que nous explique Claude Aubert au travers de son ouvrage « L'art de cuisiner sain » paru aux éditions Terre Vivante. Cuisiner sain, c'est un jeu d'enfant si l'on est bien équipé et si l'on a en tête les conseils que vous donnez dans votre ouvrage. En commençant par l'équipement de base de la cuisine, qu'est-ce que l'on doit privilégier ?
Pour les ustensiles de cuisson, le matériel de base, c'est l'inox. L'inox est vraiment solide, sans risque de substances toxiques, très durable. Donc, je dirais, la base de la batterie de cuisine, à mon avis, doit être en inox. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le compléter par quelques ustensiles en d'autres matériaux. Je pense à la fonte, une bonne cocotte en fonte pour faire des plats mijotés, c'est très bien. On peut aussi parler de la terre pour des récipients comme la terre non vernissée, ou vernissée d'ailleurs, si on sent que ça des vernis en plomb, que ce soit le diable, le rhodotop, les tagines, etc. C'est, je dirais, des utilisations plus occasionnelles. Pour le four, il y a la porcelaine à feu, le pyrex, la fonte à nouveau, qui sont également des très bons matériaux. Alors les récipients émaillés sont des récipients sains, sauf qu'ils ont l'inconvénient d'être fragiles. Quoi.
À l'inverse, quels sont ceux que vous nous conseillez d'éviter et pourquoi ?
Alors éviter essentiellement l'alu, tout ce qui est revêtement en téflon. L'aluminium, parce que on sait qu'il y a un risque de migration de l'aluminium dans les aliments. On est à peu près sûr que l'aluminium est un des facteurs de la maladie d'Alzheimer. Bon, je ne veux pas dire que les casseroles en aluminium provoquent forcément cette maladie. Voilà, puis ce n'est même pas un matériau sympathique en plus, de couleur, de texture, ça se cabosse facilement. Enfin bon, la raison principale, c'est le risque de migration de l'aluminium dans les aliments. Et puis une autre, une raison plus écologique, c'est que la fabrication de l'aluminium est très très coûteuse en énergie. Le téflon, ça fait longtemps qu'on a des soupçons sur le téflon, et notamment sur une substance qu'on appelle le PFOA, qui est utilisée pour le fabriquer. Normalement, quand c'est utilisé dans de bonnes conditions, il ne devrait pas y avoir de risque. Mais d'une part, si on dépasse 230 degrés à peu près, ça commence à se décomposer. Et puis après, ça se raye. Une fois que c'est rayé, on peut donc en absorber. D'ailleurs, Dupont, qui est le grand fabricant mondial de téflon, ils ont dit qu'ils allaient retirer cette substance, le PFOA, en 2015. Et bon, ils vont continuer à faire du téflon sans PFOA. Il n'y a pas que le PFOA, il y a une autre substance qui s'appelle le PTFE, le polytétrafluoroéthylène, qui vont sans doute continuer à utiliser. C'est le principe qui est contestable d'utiliser des résines synthétiques. On sait que si c'est mal utilisé, elles peuvent passer dans l'aliment. On ne sait pas très bien l'impact sur la santé, donc moi je trouve qu'il faut mieux éviter ça. Alors, depuis qu'on parle beaucoup et en mal du téflon, à juste titre d'ailleurs, maintenant on voit apparaître sur le marché des poêles ou des casseroles anti-adhérentes en céramique, qui sont annoncées comme, je dirais, la merveille des merveilles. En creusant un peu, on s'aperçoit que, mais plusieurs des fabricants ne l'avouent pas, c'est à base de silice, mais tout ça, il faut l'agglomérer et le faire adhérer sur la poêle ou la casserole, et donc il utilise une résine. Alors, une résine certainement de la même famille que celle qui est utilisée pour le téflon, seulement on ne sait pas ce que c'est un secret de fabrication, etc. Donc, moi, je dis, c'est pas vrai que c'est entièrement naturel, et donc méfiance, vu qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Et en plus, d'après pas mal de témoignages, ça s'abîme beaucoup plus vite que le téflon.
Et du coup, quel est votre avis sur la silicone ? On en parle
Alors là, c'est un vrai problème parce qu'on n'arrive pas à trouver d'éléments, je dirais, de recherche scientifique pour savoir si ça passe dans les aliments, si ça se décompose, à quelle température, etc. Il y a eu des comparaisons de fait sur l'impact, je dirais, l'aspect de ce qui est cuit dedans, c'est relativement secondaire. Moi, j'appliquerais un peu le principe de précaution. Je ne pense pas que des silicones, on en trouve partout. Ça a l'air d'être des produits sans danger. Déjà, je ne trouve pas du tout sympathique ces trucs tout mous qui se plient et même pas pratiques en plus. Mais j'ai une certaine méfiance vis-à-vis de ces produits.
Un principe de précaution à appliquer quand même. Hein.
Voilà, tout à fait.
Alors, on a maintenant nos ustensiles, on a nos produits frais, locaux, bio et de saison sur notre plan de travail, prêts à être utilisés. Quels sont vos conseils de préparation pour conserver tous leurs bienfaits ?
Je crois que le premier conseil en matière de préparation, c'est d'éviter d'éplucher quand c'est pas vraiment indispensable, parce que la peau et la partie immédiatement sous la peau est beaucoup plus riche en vitamines et en polyphénols, etc., que la chair elle-même. Par exemple, les carottes, on les brosse. Le problème, c'est que cette partie extérieure, c'est aussi là qu'on trouve les pesticides. C'est pas valable si vous consommez un produit qui n'est pas bio. Après, il y a le problème quand on fait par exemple des carottes râpées, les vitamines, en particulier la vitamine C, est très sensible à l'oxydation, c'est-à-dire quand elle est en présence d'air, elle se détruit. Donc, éviter de couper finement et de râper à l'avance, si vous voulez. Et si on est obligé de le faire, pour une raison pratique, mettre un acide, enfin pas n'importe quoi, mais par exemple du vinaigre ou du citron, sachant que la vitamine C est beaucoup plus stable en milieu acide.
Une fois qu'on a coupé ou non, épluché ou non, on va pour les faire cuire. Comment cuire au mieux sans appauvrir nos aliments ?
On parle beaucoup de la cuisson vapeur comme le meilleur mode de cuisson. C'est effectivement un très bon mode de cuisson. Mais la cuisson à l'étouffée, pour les légumes principalement, ne détruit pas plus les vitamines que la cuisson à la vapeur, peut-être même un petit peu moins. Quant à la cuisson à l'eau, ça dépend. Si vous faites une cuisson très brève, les légumes ébouillantés, vous les plongez de 3 minutes dans l'eau bouillante, vous détruisez également très peu les vitamines. Et si vous faites des cuissons longues, à l'eau longue pour faire des soupes par exemple, vous détruisez encore moins. Mais une partie des vitamines passe dans l'eau. Donc la cuisson à l'eau longue, c'est bien à condition de consommer l'eau de cuisson, c'est-à-dire de faire de la soupe pratiquement. C'est les trois grandes cuissons qu'on appelle cuisson humide, c'est-à-dire en présence d'eau, parce que même l'étouffée, en fait, c'est l'eau qui est dans le légume qui sert de moyen de cuisson. Alors après, il y a tout ce qu'on appelle les cuissons sèches, c'est-à-dire les cuissons à plus haute température, que ce soit le four, le grill, la poêle, etc. Alors celles-là, globalement, elles détruisent plus les vitamines pour une raison très simple, c'est que c'est la température. Toutes les cuissons humides se font autour de 100 degrés. Les cuissons sèches, ça peut être de 180, 200, voire de 250 degrés, si vous voulez. Et donc là, on a d'une part une destruction plus importante des vitamines, d'autre part, un risque de formation de substances qui peuvent être, pour certaines, cancérigènes voire, ou mutagènes. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais cuire au four et qu'il ne faut jamais se servir du grill ou cuire à la poêle. Simplement, quand on fait des cuissons comme ça, il faut éviter de les prolonger trop et de monter la température. Par exemple, si on cuit au grill à 250 degrés, il y a beaucoup plus de substances mutagènes qui se créent que si vous cuisez à 150 ou 200 degrés. Il y a une substance qu'on a découverte relativement récemment qui s'appelle l'acrylamide. Parce que ce que je viens de dire, c'est surtout pour les produits animaux. Pour les produits végétaux, vous savez, c'est cette substance, les médias en ont parlé il y a quelques temps, maintenant on n'en parle plus trop, qui se fabrique quand on cuit, par exemple, des pommes de terre, des céréales, mais c'est surtout, ça concerne surtout les pommes de terre quand vous les cuisez en frites. Si vous faites des frites, par exemple, quand elles sont légèrement dorées, il y a très peu d'acrylamide. Par contre, si vous prolongez la cuisson et qu'elle commence à brunir, si vous voulez.
La substance se crée massivement.
Et en plus, vous détruisez davantage la vitamine C. Donc, les cuissons, je dirais, d'ailleurs, c'est valable pour toutes les cuissons, il faut éviter de les faire trop longues.
D'accord.
Sauf pour deux familles d'aliments, qui sont les céréales et les légumineuses, qu'il faut cuire, il y a un point de cuisson au-delà desquels, si ça devient inutile et même mauvais, mais je veux dire, surtout les légumineuses, si c'est pas cuit assez longtemps, ça devient indigeste.
Voilà. Ce qui joue aussi dans la création potentielle de substances toxiques, c'est les matières grasses que l'on peut employer quand on fait une cuisson, par exemple, à la poêle. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères, quelles matières grasses utiliser pour quelle cuisson, quels aliments, surtout ?
Il faut, de manière générale, plutôt cuire à l'huile qu'au beurre, bon, du fait de la présence d'acides gras saturé dans le beurre, etc. Mais alors pour les huiles, il y a des huiles qui conviennent bien pour la cuisson et d'autres pas. Et je dirais le critère, c'est quand l'huile commence à fumer. Alors, vous avez des huiles qui fument à 100 degrés, enfin, ou 110 ou 120 degrés, comme l'huile de colza, l'huile de lin, par exemple, ou l'huile de tournesol. Il faut absolument pas les utiliser en cuisson, les utiliser uniquement crues pour
en assaisonnement.
Les salades. En cuisson, je dirais les huiles qui résistent le mieux à la chaleur, c'est celle qui résiste le mieux de toutes, c'est l'huile d'arachide. Pour les fritures, par exemple, où il vaut mieux prendre ça. Autrement, l'huile de sésame résiste aussi assez bien à la chaleur.
Et l'huile d'olive ?
Alors, l'huile d'olive, elle est entre les deux. On peut l'utiliser, je sais pas, pour des cuissons à la poêle, par exemple, certainement pas pour de la friture. Alors, ça dépend quelle huile d'olive, parce que c'est valable pour toutes les huiles. Plus une huile est raffinée, et plus elle supporte des températures élevées.
On va s'intéresser un petit peu aussi aux épices et aromates que l'on peut mettre dans les plats. Et pourquoi cet intérêt vraiment des épices et des aromates ?
À part l'intérêt gustatif, hein, qui n'est pas négligeable, il y a deux intérêts principaux. Un, c'est que ça stimule la sécrétion des sucs digestifs. Quand on ajoute des épices à une préparation, on salive davantage, donc on digère plus facilement les aliments. L'autre raison, c'est que ce sont pour la plupart des substances très riches en antioxydants notamment. Par exemple, on a beaucoup parlé ces temps derniers du curcuma, dont un certain nombre de recherches ont montré que ça avait un rôle protecteur vis-à-vis du cancer. Donc globalement, si vous voulez, c'est riche en substances utiles à la santé et protectrices justement contre notamment un certain nombre de cancers. Si on compare, si vous voulez, la richesse en antioxydants des épices et des légumes, on voit que la plupart des épices en ont nettement plus.
Radio Éthique vous recommande cet ouvrage très bien documenté. L'auteur répond à toutes ses questions et fournit des recettes savoureuses pour mettre en pratique ses conseils. Bonne lecture à tous.